Chapitre 4. Monsieur Colombe n'eut pas de peine à rejoindre Rémy, qui se promenait de long en large dans la rue, espérant le voir bientôt paraître. « Je désirais vous parler, » dit le jeune homme. « Cela se trouve bien, car j'ai le même désir, » répondit Monsieur Colombe en regardant sa main droite, sur laquelle il tirait avec précaution son gant de chevreau. « Permettez-moi d'aborder un sujet qui veut être touché délicatement. » Il concerne une personne pour laquelle j'ai beaucoup d'estime, Madame Odel. » Il s'interrompit et regarda Rémy avec hésitation. « Entre vous et moi, qui savons parfaitement, poursuivit-il, que l'interprétation donnée à certains incidents est erronée, il n'y a pas d'inconvénient à mentionner cette fâcheuse affaire, fâcheuse pour tout le monde et particulièrement pénible à Madame Odel. » La longueur diffuse de cette phrase fit deviner à Rémy l'embarras contre lequel luttait M. Colombe. « Comprenez-moi bien, reprit celui-ci, je n'ai aucun doute, mais il est des obscurités que je désire voir éclaircies à cause de Madame Odel. Sa fille, était-elle vraiment seule à la gare hier matin ?» Il avait fait un tel effort pour achever cette question qu'il dut s'arrêter et reprendre haleine. « Oui, j'avoue que j'en ai été surpris moi-même, » dit Rémy, « mais nos jeunes filles sont indépendantes. Comme vous pouvez le croire, je n'ai pas interrogé. » Puis, tout à coup, donnant un libre cours à sa colère, « L'outrage qu'on lui fait, à elle, » dit-il tremblant d'indignation, « je saurai le réparer si elle le permet. Mais d'où part cette inepte histoire ? Et comment se peut-il que vous autres, gens de bien, vous soyez si ouverts à tout ce qui est malveillant ? Vous avez toutes les vertus, mais votre charité, où est-elle ? Je me demande si les sauvages ne la connaissent pas mieux que vous. » Monsieur Colombe ne répondit pas. Ils marchèrent côte à côte, en silence, pendant quelques minutes. Enfin, Rémy d'Orbe reprit. « C'est chez Maître Chauvette que je me rends. « Faites-moi la faveur de m'y accompagner, Monsieur Colombe, puisque l'éclaircissement des mystères a du charme pour vous. L'auteur des lettres anonymes est trouvé. » « Je vous en félicite, » dit Monsieur Colombe avec une chaleur modérée. « Je m'en réjouis pour vous, pour la vérité, pour l'honneur qui est, quoi que vous en disiez, toujours heureux de voir triompher le bien. » Ils arrivaient à la porte du notaire. Maître Chauvette, 2 heures auparavant, avait envoyé des messagers dans toutes les directions pour convoquer à son étude les notabilités de la ville, leur annonçant que des communications de la plus haute importance les y attendaient. Rémy d'Orbe avait choisi à dessein Maître Chauvette plutôt que son propre homme d'affaires pour dépouiller le dossier de Martinus. Le vieux notaire n'était point suspect de partialité, ayant au contraire témoigné publiquement la défiance que lui inspiraient les antécédents de Rémy. De plus, une des lettres était en sa possession. Les deux nouveaux arrivants trouvèrent l'assemblée déjà fort nombreuse. Les membres du comité central des bonnes œuvres y étaient venus encore à l'issue de leur séance. Personne ne sachant de quoi il s'agissait, les conjectures s'échangeaient à voix basse, tandis que le notaire procédait à de mystérieux préparatifs. « Messieurs, » dit-il enfin, allongeant ses deux bras sur la table et appuyant l'une contre l'autre les paumes de ses mains osseuses, qu'il entr'ouvrait de temps en temps comme une paire de pinces et qu'il refermait avec un léger claquement, « Messieurs, j'ai pris la liberté de vous réunir en mon étude sur la demande de M. Rémy d'Orbe pour élucider une affaire qui le concerne personnellement. Plusieurs lettres, assez obscures, ont été adressées à divers honorables habitants de cette ville et des résultats désagréables sur lesquels je n'insisterai pas s'en sont suivis pour mon client. Servi par le hasard, il vient de mettre au jour son ennemi anonyme. » Un mouvement de curiosité passa dans l'auditoire. Maître Chauvette déploya un papier. « Ceci, dit-il, est le brouillon de la lettre que j'ai reçue moi-même et voici la lettre tout à côté. » « Je vous prierai, messieurs, de bien vouloir tout à l'heure comparer les deux pièces. » Ce brouillon a été découvert avec d'autres témoignages absolument convaincants et qui passeront aussi sous vos yeux au domicile d'un garçon de l'hôtel Ripache qui se trouve être le parent de M. Rémy d'Orbe et, dans l'état des choses, son unique héritier. Maître Chauvette ouvrit les mains comme pour permettre à la vérité de s'en échapper, puis il les referma soigneusement et reprit. Ce garçon, un cerveau déséquilibré, après certaines tentatives qui seraient jugées criminelles chez une personne saine d'esprit, mais sur lesquelles M. d'Orbe désire que je passe rapidement, ce garçon s'imagina avoir des raisons de craindre que son parent ne fondât une famille à l'eau-neuve, auquel cas ses droits d'héritier auraient disparu. Il voulut le contraindre à quitter notre ville et inventa cet expédient de lettres anonymes pour soulever contre lui la réprobation publique et lui rendre la place intenable. Ce plan, il a exposé d'une manière suffisamment lucide en présence du docteur Aliénis, auquel M. Rémy d'Orbe a confié son infortuné parent et dont voici l'attestation détaillée. Mon client, messieurs, a été la victime des machinations d'un monomane. Et c'est hier que vous avez emmené ce fâcheux personnage, monsieur d'Orbe, demanda le docteur Lamy avec intention, après un moment de silence. Hier, par le premier train du matin, répondit Rémy en soulignant chaque mot. Je crois, reprit le docteur après un autre silence, exprimer la pensée de toutes les personnes ici présentes, en disant qu'il nous est arrivé de vous faire tort, même par l'ombre d'un doute, nous vous en offrons maintenant une sincère réparation. » Un murmure approbateur parcourut le cercle. Le docteur ayant tendu la main à Rémy, chacun suivit son exemple et défila devant le jeune homme, assez ennuyé de cette cérémonie. « Ceci est en même temps mon adieu, » dit M. Colombe qui s'approcha le dernier. « Je pars demain pour Alger. L'eau-neuve ne me reverra peut-être pas. » Il toussa. « L'eau-neuve ne saurait se passer de vous, » dit Rémy. « Dans un mois, Alger sera une fournaise. »« Eh bien, je chercherai quelque part un endroit écarté où d'être homme de bien on ait la liberté. J'offusque les tendances du siècle, on m'écarte. À mon retour, si je reviens, je trouverai toutes les écluses emportées. L'eau-neuve ne sera plus l'eau-neuve. J'étais une digue, vous êtes un flot, voilà la différence. » L'eau-neuve a choisi l'inondation. Il allait s'éloigner, mais il revint. « Je vous pardonne, » dit-il gravement. « Vous pourrez le dire à Madame Odel. » Un quart d'heure plus tard, Rémy escaladait 4 à 4 les marches du vieil escalier des Anges. Il le connaissait comme celui de sa maison, cet escalier qu'il gravissait 2 fois par semaine, quand il était petit, pour aller réciter son catéchisme à Mademoiselle des Anges. Le lierre débordé, plus luxuriant qu'autrefois, par-dessus le chapiteau des vieux murs. Les marches étaient plus arrondies, mais il y retrouvait les anciennes brisures, les mêmes creux dans lesquels de petites mares brillaient après une averse. Ayant traversé la voûte, il leva la tête et entendit au-dessus de lui des voix qu'il reconnut. Il hésita. Fallait-il se comporter en visiteur cérémonieux et aller tirer la sonnette de la maison ? Ou bien traverser la terrasse, pousser la petite porte à demi cachée dans la haie de laurier touffu et se présenter sans autre introduction. Ce dernier parti était le plus prompt, il le choisit. Les secondes lui semblaient en ce moment avoir un prix immense. Un retard de 5 minutes lui eût positivement donné la fièvre. Madame Odel, sa fille et Mademoiselle des Anges étaient établies à l'angle du jardin, sous un tilleul dont chaque souffle de vent faisait pleuvoir les fleurs. Monique, nonchalamment étendue dans un fauteuil à balançoire, les mains croisées sur les genoux, appuyait la fine pointe de son pied contre le tronc d'un petit lilas pour imprimer à son siège un léger roulis. Elle regardait fixement devant elle. Ses joues étaient pâles, ses yeux moins brillants qu'à l'ordinaire, l'ovale délicat de son visage semblait s'être étrangement aminci depuis quelques jours. À quoi songeait-elle, les regards attachés sur une petite voile qui se balançait au milieu du lac, dans l'échappée qu'encadraient les arbres d'un jardin voisin? Elle se disait que jamais elle n'oserait revoir Rémy d'Orbe après son incartade de la veille. Qu'avait-il dû penser en la trouvant seule, à l'aube, dans cette gare presque déserte, l'air hagard, car elle devait avoir l'air hagard, et qui plus est, ridicule, avec ce grand manteau gris suranné. Elle devait ressembler à quelque petite couturière en rupture d'atelier. Quelle conjecture n'avait-il pas faite? Elle avait lu l'étonnement dans son regard, peut-être même un blâme. Non, jamais elle n'oserait le revoir. S'il se présentait là, devant elle, en cette minute, elle s'enfuirait. La petite porte du jardin s'ouvrit, froissant à droite et à gauche les branches des lauriers. Monique tourna la tête, aperçut Rémi et ne s'enfuit pas. Il était devant elle, avant qu'elle eût songé même à ralentir le mouvement machinal de son pied. L'accueil qu'on lui fit fut peu encourageant.
« Ah, vous voilà !» dit Mademoiselle des Anges.
« Je ne savais pas que vous fussiez au courant des petites entrées !» ajouta Madame Odel en lui indiquant froidement un siège. Monique lui trouvait autant de courage que s'il eût bravé le feu d'une redoute. Il ne se décontenança pas le moins du monde. « Je viens de découvrir la clé d'un mystère qui nous a tous intrigués. J'avais hâte de vous en faire part. »«
Quoi donc, ces lettres ?» fit vivement Mademoiselle des Anges.
Madame Odel continuait à tricoter, impassible. Mais les yeux de Monique retrouvèrent tout à coup leur éclat. Elle cessa de se balancer et se pencha en avant, le visage animé tout à coup par l'émotion. Le jeune homme resta debout, appuyé au tronc du tilleul. Il ne voulait pas avoir l'air de s'installer quand sa présence était tolérée tout au plus. « L'histoire est longue, dit-il, je l'abrégerai le plus possible, mais je réclame cependant votre patience. » Et il raconta tous les épisodes du drame compliqué dû à l'imagination de Vivus Martinus. Mademoiselle des Anges ponctua le récit de ses exclamations. Madame Odel n'ouvrit pas la bouche.
« Comment y résiste-t-elle ? » se demandait Monique. « C'est qu'elle ne le regarde même pas. Elle compte ses mailles comme si elle n'entendait rien. »
Cependant, quand la narration arriva à son terme, Madame Odel leva la tête et dit sentencieusement « Je suis soulagée, jusqu'à un certain point, d'apprendre que ce jeune homme avait la tête dérangée. Autrement, je n'aurais pu m'empêcher de garder un certain ressentiment de la façon dont il s'est comporté à mon égard l'autre soir.
« Oh, maman, c'est prendre la chose par un bien petit côté !» ne put s'empêcher de dire Monique.
« A-t-elle de grands côtés ?» demanda sa mère froidement.
« Aucun, sinon que la réputation de Monsieur d'Orbe est maintenant hors de cause, mais c'est une bagatelle !» fit Mademoiselle des Anges assez sèchement.
L'intransigeance de Madame Odel commençait à lui donner sur les nerfs. Elle voulait bien qu'on eût des idées stables, mais non rivées avec des boulons pour l'éternité.
« Pourtant, l'histoire a une morale, » reprit Madame Odel en posant son tricot sur ses genoux. « Elle prouve que les personnes de notre monde étant fort en vue, et toutes leurs actions devenant, pour ainsi dire, propriété publique, nous ne saurions être trop attentifs à ne pas donner prise à la médisance. Nous vivons à l'eau neuve dans des maisons de verre. »
« Et même de verre grossissant, » dit Rémi. Madame Odel goûta peu cette remarque qui semblait déprécier sa morale. Elle reprit son tricot. « Maintenant, fit le jeune homme, après un instant de silence fort angoissant, il me reste à vous demander, madame, la faveur d'un entretien particulier. » À peine prononcée, cette formule lui parut odieusement lourde et banale. « Il aurait dû chercher une transition, » pensa-t-il. Monique détournait la tête et semblait au supplice. Il se demanda comment il n'avait pas songé à lui épargner cette minute de pénible embarras.
« Quoi que vous ayez à dire, vous pouvez parler ici, monsieur, » dit Madame Odel. « Je n'ai pas de secret pour Mademoiselle des Anges. »
Il se tourna vers Monique, elle le regardait maintenant. Il lut dans ses yeux tout ce qui lui importait de savoir. Alors, un mouvement irrésistible l'entraîna, il se pencha vers elle, lui prit les deux mains en murmurant « Vous voulez bien, n'est-ce pas ?»«
Pour l'amour du ciel, parlez à maman !» fit Monique à voix basse.
« C'est à moi, je crois, que vous avez demandé un moment d'entretien !» dit froidement Madame Odel. Rémi, absolument confus cette fois, crut sa faute irréparable. Ne savait-il donc plus se conduire en homme civilisé, c'est-à-dire réprimer toutes ses impulsions naturelles? Heureusement, Mademoiselle des Anges lui tendit une main secourable.
Elle ne raisonnait pas ses impressions, cette illogique petite personne. Rémi venait de la conquérir sans qu'elle sût trop comment. On pourrait faire plus mal, après tout, pensa-t-elle. Et se tournant vers Madame Odèle, nous la lui donnons, n'est-ce pas ? Puis elle courut à Monique qu'elle amena à sa mère. Finissons-en, s'écria-t-elle. Allons, chère amie, accomplissez les rites. Que ces enfants se donnent la main et se comportent ensuite en fiancés raisonnables. Madame Odèle se leva, embrassa Monique, puis se tourna vers Rémi. Ce sont des circonstances absolument indépendantes de ma volonté qui font de vous mon gendre, dit-elle. À cette déclaration sans fin, il eut un léger sourire qu'il réprima aussitôt, voyant les yeux de Monique se remplir de larmes. Du reste, poursuivit la mère, comme nous ne connaissons nullement vos principes, vous ne trouverez pas mauvais que nous vous imposions un temps d'épreuve. J'espère devenir votre fils et non pas seulement votre gendre, répondit-il d'une voix qui trembla légèrement. C'est dire que mon obéissance vous appartient déjà. Madame Odèle le regarda longuement, puis tout à coup lui tendit la main. Ah mon Dieu, fit-elle, que la vie est une étrange chose! Et elle s'éloigna, car elle n'aimait jamais à laisser voir ses émotions. Monique et Rémi s'assirent au pied du tilleul et tombèrent, comme ils en étaient coutumiers, dans un long silence. Monique le rompit la première. J'ai une arrière-pensée, dit-elle d'un air songeur. J'ai une question, une grave question à vous faire. Répondrez-vous tout à fait sincèrement ? Peut-on rien cacher à des yeux qui vous regardent jusqu'au fond de l'âme ? Fit Rémi en plongeant les siens dans ces yeux merveilleusement limpides dont le premier regard avait été pour lui une révélation. Le soir où nous nous sommes rencontrés chez Madame Vandeuvre, reprit Monique, vous rappelez-vous que j'ai laissé tomber mon éventail au moment où vous alliez sortir ? Et avez-vous cru ? Oh, dites-moi si vous avez cru, s'écria-t-elle, que je le faisais exprès ? Vous me tenez donc pour le plus présomptueux des mortels ? Répondez sérieusement, jurez, fit-elle solennellement. Je jure, ma chère Monique, que jamais une telle pensée ne m'a seulement effleurée. Et vous vous êtes montrée ensuite assez rébarbative pour ne laisser aucune illusion à mon amour-propre. Là, êtes-vous satisfaite ? Avez-vous d'autres questions à me poser ? Oh, cent autres, mais elles viendront plus tard. C'est votre tour, dit-elle en lui laissant prendre sa main. Il se pencha vers elle. Nul n'entendit la question ni la réponse. Et les fleurs du tilleul continuèrent à pleuvoir doucement autour d'eux. Fin de Monique de T. Combes.